Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qui a trahi le web ? C'était à l'occasion des 25 ans du web. Son inventeur, Tim Berners-Lee, était interviewé par le site d'actu Reddit. Question : quelle a été l'une des choses pour laquelle vous n'auriez jamais pensé que l'Internet serait utilisé ? Réponse : les chatons. Alors, 5 ans plus tard, le même Tim Berners-Lee n'est plus d'humeur à plaisanter. Le Britannique, à qui l'on doit les liens hypertextes et les protocoles qui en ont découlé, se dit inquiet. « Il est devenu évident, déclarait-il dernièrement dans le New York Times, que le web n'est pas à la hauteur des espérances qu'il suscitait à ses débuts. Conçu comme un outil ouvert, collaboratif et émancipateur, il a été détourné par des escrocs et des trolls qui l'ont utilisé pour manipuler le reste des internautes à travers le monde. » Alors, ce constat, d'autres le partagent à la veille de la célébration du 30e anniversaire du web, autrement dit de la popularisation d'Internet, captation des données, censure, centralisation des acteurs, déstabilisation via les fake news, discours de haine, les dérives ne manquent pas. L'esprit d'ouverture des pionniers dont certains imaginaient qu'ils allaient changer le monde en mieux semble bien loin. Mais le ver n'était-il pas déjà dans le fruit ? Alors qui a trahi le web ? C'est la discussion du soir en compagnie de 3 invités. Anne Lalou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice et la directrice de la Web School Factory, qui est une école qui forme les futurs managers du numérique. Vous êtes par ailleurs membre du Conseil National du Numérique, mais ce n'est pas à ce titre que vous allez vous exprimer ce soir. Pour discuter avec vous, Rémi Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue des sciences et des techniques, expert du numérique. Vous avez publié l'an dernier aux éditions FY l'évangélisme technologique de la révolte hippie au capitalisme high-tech de la Silicon Valley. Et puis notre 3e invité, elle est au téléphone depuis Genève en Suisse où est célébré le 30e anniversaire du web, puisqu'il faut rappeler que c'est le CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui a permis de passer de l'Internet à cette version populaire qu'est le web. Notre 3e invité, c'est Flore Vasseur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine et réalisatrice. Votre dernier ouvrage, « Ce qu'il reste de nos rêves » vient d'être publié aux éditions des Équateurs. Vous y racontez la vie d'Aaron Swartz, qui a été un des défenseurs de l'Internet libre, qui est mort très jeune. Il s'est suicidé. C'était un des pionniers, une des figures justement de ces idéaux liés à Internet dont nous allons parler ce soir. Mais je voudrais qu'on commence par un autre personnage, qui est donc Tim Berners-Lee, je crois qu'il est à Genève, justement, Flore Vasseur, pour célébrer ce 30e anniversaire.
Oui, alors il a toute une semaine de célébration et ça démarre un étage au-dessus de moi par une interview devant un public au forum, au festival du film des droits humains, FIFTH à Genève, puisque effectivement la question, et c'est celle que vous posez aujourd'hui, c'est l'impact du web et de l'internet sur nos sociétés, les enjeux éthiques de la technologie aujourd'hui, et lui-même a bien sûr, avec 30 ans de développement divers et variés, fait ce constat terrible d'un truchement total de l'outil à des fins qui vont à l'encontre de l'intérêt général.
Qu'est-ce qu'on lui doit, Rémi Durand, à Tim Berners-Lee ?
Tim Berners-Lee, comme vous l'avez un peu rappelé, c'est un des fondateurs de certaines briques techniques de base d'Internet, comme les liens hypertextes et donc le protocole qui est à la base du web. Et puis, c'est aussi l'un des grands utopistes qui était qui a construit tous les idéaux et puis toutes les aspirations qu'on attachait à cette technologie complètement nouvelle à l'époque. Et voilà un petit peu ce qu'on lui doit.
C'est quelqu'un qui est évoqué, qui est connu par les élèves de votre école, la Web School Factory, Anne Lalou, en tout cas, dont vous parlez.
Alors, non, il n'est pas connu, mais oui, nous en parlons. Très clairement, aujourd'hui, le premier enseignement que nous présentons à nos étudiants, c'est justement l'histoire du web. À cet égard, on voit bien que pour eux, c'est déjà de la préhistoire. Il faut se rendre compte que pour mes étudiants qui ont entre 17 et 20, 25 ans, non seulement lui est inconnu, mais en fait, quelles étaient les prémices, hein, et quelles étaient les utopies qui ont gouverné et qui étaient à la base, n'est pas quelque chose qui fait partie de la culture générale de mes étudiants. Et là-dessus, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que, en tout cas, dans le monde dans lequel ils vivent, ils puissent avoir une pensée sur ces choses-là. Et donc, ne pas accepter le web tel qu'il est aujourd'hui, mais se s'interroger sur ce web.
Bah, j'aimerais déjà savoir si Rémi Durand et Flore Vasseur sont d'accord avec ce que vous dites, Anne Lanoux, sur le fait que ça n'est pas forcément grave de ne pas connaître finalement toute cette histoire du web, de ses fondateurs et peut-être des idéaux qu'ils ont emportés. Vous êtes d'accord avec ça, Rémi Durand ?
Bah, écoutez, je pense que c'est pas nécessaire. En fait, Internet et même les nouvelles technologies du numérique, ce sont des technologies qu'on peut s'approprier à sa façon et puis les intégrer à son contexte présent sans avoir besoin effectivement de comprendre le contexte dans lequel elles ont émergé. Alors, comprendre l'histoire de ces technologies, ça permet de comprendre un peu comment elles se sont structurées techniquement et comprendre un peu dans quel... Parce que ces technologies, elles apparaissent en même temps qu'un certain contexte politique, un certain rapport de force sur le marché, par exemple, des nouvelles technologies. Bah, comprendre l'histoire des discours et des utopies initiales qui ont entouré ces nouvelles technologies, ça permet de comprendre aujourd'hui cette configuration particulière qui est très concentrée autour de la Silicon Valley et de très grandes multinationales. Donc voilà, ça permet d'avoir une vision un peu plus claire du panorama, du contexte dans lequel on se trouve et d'avoir une compréhension plus complexe aussi.
Flore Vasseur.
Ouais, bah forcément, je suis pas du tout d'accord. excusez-moi. D'abord, il y a un mot qui revient dans ce que j'entends et qui moi me choque, parce que vous arrêtez pas de parler d'utopie comme quelque chose qui serait un doux rêve, un peu naïf, un peu désuet, un peu inutile. Je trouve que c'est quand même assez terrible de ramener l'origine du web à cela. S'il y a une utopie, hein, s'il y a une grande idée, et si elle est en train de se fracasser sur les logiques marchandes, c'est celle d'une liberté d'accès à la connaissance. Alors oui, si on dit que ça c'est une utopie, c'est quand même assez terrible. Et si les étudiants qui aujourd'hui apprennent à coder ne savent pas que l'outil qu'ils ont entre les mains à la base a été mis en place pour ça, alors je trouve ça personnellement dramatique. Et alors vraiment, on est mal barré, j'ai envie de dire. Parce que s'il n'y a pas cette idée-là, alors oui, le net n'est qu'un vaste marché économique dans lequel l'idée, c'est de faire ce qui est en train d'arriver, rester les gens le plus possible sur une application pour qu'on aspire le plus possible d'informations pour vous, pour qu'on fasse le plus d'argent possible auprès des multinationales. Si c'est ça,
non, c'est pas ça.
Défendu auprès des étudiants aujourd'hui, alors excusez-moi, mais je trouve que c'est vraiment un crève-cœur et c'était pas une utopie le point de départ. C'est une grande filiation humaniste qui existe bien avant les pionniers du net, qui remonte à Théard de Chardin. L'idée qu'il y a potentiellement avec un outil, ici la technologie, la possibilité d'avoir un cortex mondialisé qui donne à l'univers une conscience de lui-même.
Alors on va... Flore Vasseur, je reviens vers vous, vous inquiétez pas, mais je voudrais entendre la réaction d'Anne Lanoux qui nous dit non, ce n'est pas ça.
Non, c'est pas ça, bien sûr, et heureusement, et vous avez raison de réagir comme vous le faites. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3-4 ans, j'ai plus la date en tête, Tim Berners-Lee est venu parler à Futur en scène, et ce sont mes étudiants qui l'ont interrogé, et quand ils ont préparé les questions, je vais vous lire 3 des questions. Alors il y en avait beaucoup plus, mais je vais vous en lire 3 qui vont vous convaincre ça mérite pas la dureté de vos propos. Est-ce que les Américains contrôlent aujourd'hui Internet comme ils dominent le monde? Quelles forces opposées peuvent aujourd'hui émerger? Comment pensez-vous que les Internets doivent agir pour éviter la fin de la liberté et de la neutralité du net? Ne faut-il pas simplement sensibiliser les gens très jeunes plutôt que de se battre contre les géants? Comment modeler un citoyen de l'ère numérique? Voilà, ça c'est les questions qu'il posait. Et ce qui est important, c'est que justement il soit en capacité à poser ces questions. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est effectivement qu'il y ait eu des grands idéaux. Et pour autant, le simple fait, à mes yeux, que des millions et des centaines de millions de personnes aujourd'hui utilisent le web comme un outil de communication est porteur des dérives que l'on observe, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de pensée critique. Et en l'occurrence, à la Web School Factory, nous donnons des cours de pensée critique pour permettre les questions telles que je vous les ai lues.
Alors, réaction de Flore Vasseur et ensuite Rémi Durand.
Non, mais c'est formidable. J'ai certainement mal interprété l'idée que vos étudiants ne connaissaient pas Tim Berners-Lee et que ça n'avait pas d'importance pour vous que ça soit le cas. Donc, j'ai extrapolé sur le fait qu'effectivement, du coup, toute cette histoire des fondements et des raisons, des bases et des bases posées du web était quelque chose que vous occultiez. Et donc, je ne voyais pas bien comment on pourrait avoir un point de vue critique sur cet outil si on ne sait pas d'où il vient. Il y a deux personnes qui ont vraiment posé ces principes-là, ces grands idéaux du web et qui ne sont pas des utopies. La première, c'est celle dont on a parlé avec Tim Berners-Lee, l'idée d'un accès partagé et libre et gratuit à la connaissance, dont on peut voir aujourd'hui le non-respect, on voit que cette logique a perdu, je crois qu'on est tous d'accord. Et le deuxième point, et là c'est encore plus important, j'imagine, pour vos étudiants, c'est code ISO, le fait que quelqu'un qui programme, quelqu'un qui a la main sur le programme est en train de faire un choix politique.
Alors on va rester, si vous le voulez bien, justement, sur cette notion de libre accès à la connaissance qui nous permettra dans un instant, Flore Vasseur, d'évoquer la figure d'Aaron Swartz. Je ne sais pas si je prononce d'ailleurs son nom correctement. On verra avec vous. Merci pour votre indulgence. Mais Rémi Durand, vous vouliez réagir et aussi sur cette question du libre accès à la connaissance. Est-ce que vous diriez que cette promesse-là, qui était cette promesse du web il y a 30 ans, est une promesse qui n'a pas été ou tenue, si ce n'est entièrement, en tout cas pas correctement?
Alors, moi, je voulais réagir surtout à un aspect. Alors, un aspect des propos tenus par Flore Vasseur, et puis même une idée qui circule beaucoup en ce moment sur Internet et sur cette question de l'héritage des utopies ou des idéaux, en tout cas, peu importe le mot qu'on emploie, mais qui entourait ces technologies initialement. On a tendance, en fait, à parler, et même d'ailleurs le titre de l'émission l'illustre assez bien, à parler soit de trahison, soit de récupération, quand on parle notamment des multinationales de la Silicon Valley, qui se sont constituées autour de ces nouvelles technologies.
Bah, faut vous dire, quand il y a quelqu'un comme Tim Berners-Lee qui utilise justement ce vocabulaire-là, ça donne quand même, on va dire, un certain crédit à cette critique, même si évidemment on peut la contester.
Oui, bah je me permets de la contester justement, parce qu'en fait, ce qui est, je trouve ça très intéressant, l'évolution historique, surtout du cas de la Silicon Valley, parce que ce qu'on voit, c'est que c'est l'une des régions où les idéaux qui entouraient les nouvelles technologies du numérique se sont exprimés avec le plus de force, et notamment dans la contre-culture, alors dans plusieurs mouvements, il y avait le mouvement hacker, alors là c'était plus côté MIT, côté côte ouest des États-Unis, mais aussi de toute une partie du mouvement hippie qui s'était approprié ces nouvelles technologies. Et donc cette technologie, pour ces gens-là, c'était justement un moyen de sortir en fait de l'ordre établi, de sortir de la société de consommation, du capitalisme fordiste, de la bureaucratie, etc. Enfin bon.
De ce point de vue, on peut bien dire quand même justement que l'idéal n'a pas été atteint, parce qu'on n'est pas du tout sorti de la société de consommation avec le web tel qu'il est aujourd'hui.
Oui, exactement. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement de voir que ces utopies, et notamment celle du mouvement hippie, qui d'une part contester l'ordre établi et d'autre part chercher à recréer à travers leurs expériences hippie, mais aussi à travers les nouvelles technologies, une forme de magie, de nouvelles formes d'expérience complètement exaltantes. Ce qu'on observe en fait en faisant la généalogie de ces idéaux, c'est de voir que ces idéaux sont justement ce qui était le ferment de l'émergence d'entreprises comme Apple dans les années 70, qui a été fondée par un hippie comme Steve Jobs, comme tout le monde le sait. Et on voit qu'en fait, cet idéalisme et cet enthousiasme technologique très exalté dans cette région du monde, elle reste quelque chose qui est central dans le fonctionnement de ces multinationales. Et donc, on peut pas en fait opposer ces multinationales et l'idéalisme de départ. C'est deux choses qui fonctionnent ensemble.
Voilà, c'est pas contradictoire, mais finalement, ça fonctionne. Ce que je disais un petit peu finalement dans mon introduction, en posant la question de savoir si le verre était dans le fruit. Alors, supposer, je ne sais pas justement, Anne Lalou, peut-être que ça sera aussi là un élément de contestation, qu'on puisse parler de verre, puisque le verre, ça suppose que le système a été perverti. Or, vous, si j'ai bien compris vos premières interventions, vous considérez qu'aujourd'hui, certes, le web a changé depuis 30 ans, heureusement d'ailleurs, il a évidemment pris de l'ampleur, mais qu'il continue à apporter des réponses qui sont des réponses essentielles pour la société et positives.
Surtout, enfin, si vous voulez, le fond de ce que je pense, c'est que on est face à une technologie, parce que c'est des fondements technologiques tout ça, qui a eu une incroyable accélération. Et qui est, cette accélération est encore en cours. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'inquiétudes à avoir devant nous. Hein. On parle juste du web et de ses 30 ans, mais il y a énormément de sujets qui sont légitimement des sujets d'inquiétude. Et pour moi, ce qui manque le plus, c'est en réalité de la pensée. C'est-à-dire que, oui, il y avait des idées au départ, et puis ensuite, il y a énormément de choses qui font que ces technologies sont venues irriguer et se diffuser dans énormément de secteurs, qu'ils soient économiques ou non économiques. Et en parallèle, la puissance des ingénieurs et la puissance de la machine a permis par ailleurs énormément de progrès technologiques. Or, le progrès va plus vite que la pensée. Et quand on est face à un progrès plus vite que la pensée, alors on arrive à des moments où ça dérape. Donc oui, je crois que les idéaux étaient là. Je crois qu'on ne peut pas contester qu'aujourd'hui le web est quelque chose qui est relativement universel, même s'il y a des pays, des parties du monde où il est parfaitement contrôlé. Et on peut, enfin, je veux dire, je ne vais pas faire ni de la politique ni de la géopolitique ce soir, parce que je ne suis pas qualifiée pour le faire. Mais pour autant, elle a également permis énormément de choses. Et aujourd'hui, grâce au web, il y a énormément de choses qui existent. On peut penser à tout ce qui se passe en termes de connaissances avec, sur les MOOC et la connaissance en ligne. Il y a énormément d'exemples positifs.
Mais comment est-ce que vous expliquez, Anne Lalou, que ce discours-là soit un discours qui paraisse peut-être aujourd'hui un peu minoritaire? C'est-à-dire par rapport à la critique très forte qui est faite au web. Alors j'en ai énoncé quelques-uns des aspects, mais les fake news, discours de haine, la concentration des acteurs, le fait qu'il y ait une marchandisation du web, le fait qu'il y ait de la censure, enfin j'en passe et des meilleurs.
Parce que en réalité, la capacité de diffusion du web a une telle puissance que ce qui se passe dans la société et tous les dysfonctionnements de la société sont amplifiés par la capacité de diffusion du web. Mais en réalité, là, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui est un formidable outil qui peut être utilisé dans le négatif, et il l'est effectivement.
Bon, Flore Vasseur, est-ce qu'il n'y avait pas en fait une forme de naïveté du côté des pionniers du web que de penser qu'un outil technologique comme celui-là pourrait être maîtrisé uniquement dans des valeurs positives, qui étaient justement le fait que ça soit un outil universel qui permette une forme d'émancipation pour ceux qui l'utiliseraient?
Je pense qu'en fait, moi j'aime à rappeler que la technologie en elle-même, elle est neutre. Je voudrais revenir à l'idée que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. La technologie est neutre. Par contre, le choix d'utilisation qu'on en fait, le code qu'on décide d'écrire, c'est-à-dire les intentions qu'on lui donne, les intentions profondes qu'on donne à la technologie ne sont pas neutres. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les intentions qui vont à l'encontre de la société ont gagné. Elles sont beaucoup mieux organisées, elles sont beaucoup mieux financées, elles ont beaucoup mieux compris que l'intérêt général ou que ceux qui essayent de le défendre, l'utilisation pernicieuse que la technologie pouvait de la technologie. Donc si vous voulez, on est face à effectivement un rapport de force qui s'illustre dans la technologie comme il s'illustre partout ailleurs. Il se passe sur Internet ce qui se passe sur l'éducation, sur la santé, sur l'alimentaire, sur l'environnement, avec une logique à l'œuvre qui écrase tout, qui est la logique du profit immédiat et de la rentabilité immédiate. Et Internet n'a pas été épargné du tout. Ça a été même un terrain de jeu formidable pour ces intentions-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui gagne, alors que l'outil aurait pu servir à autre chose, ce qui gagne, c'est les fake news, parce que ça aide des gens très bien organisés, c'est les algorithmes prédictifs, c'est tout ce qui peut être de la surveillance, s'associer à de la surveillance, et c'est joli les MOOC, tout ça, etc. Mais ça, je suis la première à trouver ça génial. Ce qui m'alerte, c'est que cette logique-là, de qui était la logique première du web, qui était l'idée que ça devait être un outil pour émanciper les individus, eh bien elle n'a pas gagné parce qu'il y avait peu de personnes pour la défendre, parce qu'on a tous regardé ailleurs. Et moi la première, je fais partie des dinosaures qui ont créé une boîte lors de la première bulle Internet à New York. Donc j'y étais, j'étais dedans, ça a très bien marché sur moi aussi.
Vous l'aviez créé en vous disant quoi? C'est peut-être le moyen de faire fortune par exemple dans ce domaine?
Bien sûr, moi j'avais 24 ans, j'étais à New York, c'était la fin des années 90, c'était l'idéal de l'Internet à fond qui télescopait le libéralisme, et j'ai complètement joué le jeu, donc je le connais par cœur ce discours-là. Mais j'ai eu la chance, je pense, d'assister au point de bascule, au point où effectivement cet idéal-là, cette intention-là m'a paru totalement désuète, et où le web, je pense, l'Internet s'est retourné. J'imagine qu'on va en parler, mais c'est ça en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus séparer effectivement Internet d'un côté, la société de l'autre. Internet et la société est l'Internet, se reflète sur Internet, ce qui reflète partout ailleurs. Et c'est cette logique terrible que le profit est plus important que la vie, le profit est plus important que le savoir, le profit est plus important que le futur, le profit est plus important que l'éducation de nos enfants, le profit est plus important que nos intimités, que notre vie privée. C'est toujours, toujours, toujours la même logique.
Ouais. Alors, Flore Vasseur, je voudrais savoir si Rémi Durand serait d'accord avec ce terme, en tout cas, de retournement d'Internet. Est-ce que là, on peut faire ce constat, même si évidemment, il y a une diversité des formes que prend le web, qui fait qu'on peut toujours trouver des contre-exemples, mais on va dire qu'il y a des grandes tendances. Est-ce que ces grandes tendances permettent effectivement de parler de retournement?
Alors, la grande tendance, en fait, c'est surtout ce qui se passe dans la Silicon Valley qui m'intéresse, parce que là, ça s'entendait à travers les propos de Flore Vasseur, mais là encore, dire que le web approprié par ces grandes entreprises, le web façon Google ou façon Facebook pour faire court, c'est un web qui aurait été réapproprié par la logique du profit qui dépasserait toutes les considérations. Là encore, je pense que ça ne permet pas de comprendre les dynamiques culturelles, économiques et même techniques qui font évoluer, qui sont toujours au cœur de l'évolution de cet univers.
Il n'y a pourtant pas que Flore Vasseur qui fait cette critique. Enfin, c'est aussi critique qui vient de l'intérieur de la Silicon Valley, c'est-à-dire des repentis de la tech, comme on les appelle, qui ont travaillé chez Google, à Facebook, et qui disent bah voilà, on est allé trop loin, on a créé un monstre, et aujourd'hui bah voilà, le web appartient à quelques entreprises, les fameux GAFAM, et il y a un véritable danger auquel on est confronté.
Bien sûr, alors ça s'exprime peut-être différemment dans la Silicon Valley. C'est repenti, parle surtout des addictions générées par ces technologies. Alors que, bon, là, dans les discours qu'on entend beaucoup en ce moment sur le web, c'est cette marchandisation du web, cette idée que cet outil initialement attaché à tout un tas d'idéaux aurait été mis au service, enfin, mis au pas de la logique du profit. Or, quand on regarde le fonctionnement de ces entreprises, comme Facebook ou comme Google, par exemple, Google, sa mission, alors on peut dire que c'est de la communication, mais sa mission, c'est de centraliser toute l'information du monde et de la rendre universellement accessible et utile. Alors, là encore, il y a sûrement des personnes qui pourraient dire que c'est un discours de façade et que derrière ça, c'est pour le mettre au service de leurs intérêts financiers. Mais quand on regarde le fonctionnement de ces multinationales, quand on regarde les écosystèmes qui les entourent, toutes les communautés de développeurs, d'utilisateurs, par exemple les fans d'Apple qui font la queue devant les magasins dès qu'il y a une nouveauté qui sort, on sent que ce qui est au cœur de cet univers, ça n'est pas la logique du profit. Cet univers, il engendre...
Bah, avec les queues devant les magasins Apple, si, quand un peu.
Mais non, justement, c'est-à-dire que ce qui rend les technologies Apple aussi attrayantes pour les consommateurs est ce que veulent exprimer les entrepreneurs, les managers et les ingénieurs de ces entreprises, c'est créer des technologies magiques. C'est ça qui les pousse à faire ce qu'ils font, c'est à changer le monde à travers ça, à créer des disruptions les plus radicales possibles. Et cette logique-là, qui n'est pas celle du profit pour le profit, c'est ça qui recrée une nouvelle forme de capitalisme avec tout ce que ça peut avoir de très négatif. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, il recrée un capitalisme qui est, enfin, un ordre social, disons, qui est très similaire à celui dont, face auquel il cherchait à se rebeller dans les années 60 ou 70. Mais il faut bien comprendre comment fonctionne ce retournement historique pour justement développer un regard critique intéressant. Et cette opposition entre les idéaux qui entourent les technologies et la logique du profit, elle ne permet pas de comprendre comment fonctionne cet univers.
Anne Allou.
Oui, moi je rebondis là-dessus si vous voulez. Oui, Flore, vous avez raison, c'est un amplificateur d'excès et de dérives. Après, on peut aussi mettre des lunettes un peu plus optimistes. Je veux dire, Salman Khan et ses 6 millions d'élèves ou 6 millions et plus d'élèves, ça a été permis grâce à ça.
Il faut rappeler Salman Khan, c'est la Khan Academy.
C'est la Khan Academy.
Ce sont les cours délinéarisés qui permettent un accès à l'éducation.
Qui ont permis un accès à la connaissance formidable, notamment dans, en France, on a bien vu, je veux dire, aujourd'hui, une entreprise telle que Quant est en train de prendre ses positions sur le marché. Et je crois que là aussi, on revient à la nécessité d'éduquer. Et c'est un choix que d'utiliser Quant ou d'utiliser Google. C'est effectivement un choix et on doit arriver à un moment où on doit donner les outils à la génération qui arrive et qui est digital native, on lui doit lui donner les outils de penser pour justement faire ces choix-là. Et on revient aussi aux questions d'open source, d'open data. Moi, par exemple, on travaille beaucoup sur cette question de la data à la Web School. Les étudiants ont une parfaite compréhension de la donnée qu'ils donnent ou pas, contre quoi ils la donnent ou pas. Et c'est un sujet qui n'est pas un sujet complètement anodin pour eux. C'est un sujet sur lequel ils apprennent à réfléchir. Mais on ne peut pas prétendre... Eux, ils sont nés avec, et c'est notre mission à nous que de leur donner les outils et les éléments pour pouvoir réfléchir ces sujets.
Avant de poursuivre cette discussion, je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 1993, qui est très connue par tous ceux qui évoluent dans ce monde du web. C'est une déclaration d'indépendance, la déclaration d'indépendance du cyberespace que l'on doit à un certain John Perry Barlow. Donc nous sommes en 1996, il réagit au vote d'une loi sur les télécommunications qui a été votée par l'administration Clinton. Déclaration d'indépendance, donc non pas par rapport aux GAFA, qui n'existe pas encore, mais par rapport aux États qui paraissent à l'époque, en tout cas, les principaux adversaires par rapport au projet qui est celui du web.
Governments of the industrial world, you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind.
Gouvernement du monde industriel, vous, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, la nouvelle demeure de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous, qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'êtes pas souverains là où nous nous rassemblons. Nous n'avons pas de gouvernement élu et nous ne sommes pas prêts d'en avoir un. Alors, je m'adresse à vous avec la seule autorité que donne la liberté elle-même lorsqu'elle s'exprime. Je déclare que l'espace social global que nous construisons est indépendant par nature de la tyrannie que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez pas le droit moral de nous donner des ordres et vous ne disposez d'aucun moyen de contrôler qu'il nous faudrait craindre.
Voilà, John Perry Barlow, déclaration d'indépendance du cyberespace, 1996, qu'on peut retrouver cette déclaration en vidéo sur le site du journal Libération. Rémi Durand, est-ce que c'est une déclaration qui vous paraît encore valable, qui vous paraît particulièrement datée, un peu plus de 20 ans après avoir été enregistrée?
Je trouve que justement c'est très intéressant de voir comment déjà qu'elle est complètement caduque, enfin que l'évolution de l'économie mondiale et des rapports de force entre les États et les entreprises ont complètement évolué en quelques décennies. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes au courant, mais il y a cette déclaration d'indépendance, elle a été reprise il y a pas longtemps
par Olivier Hirschfeld.
Voilà, par Olivier Hirschfeld.
Chercheur en communication.
Et en fait, il a repris ce texte, il a presque paraphrasé, mais en remplaçant les États par les GAFA. Enfin, ouais. Il les nomme pas, mais...
En disant par exemple ceci, après, pardon, je vous interromps, mais la richesse, donc il s'adresse aux GAFA, la richesse que vous créez, le modèle de régie publicitaire sur lequel vous prospérez, sont définitivement et totalement incompatibles avec l'éthique nécessaire à l'échelle des populations que vous touchez et prétendez servir.
Exactement. En fait, pour revenir un peu à cette déclaration de Barlow, moi j'aimerais faire le parallèle avec le lancement du premier Macintosh par Apple en 1984. Et je ne sais pas si c'est une pub qui est mythique dans l'histoire de la Silicon Valley, mais on voit, c'est une pub qui a été réalisée par Ridley Scott. Et en gros, on voit une population qui a été complètement asservie, réduite en esclavage par Big Brother. Et on voit l'arrivée d'une femme athlétique qui représente un peu le Macintosh et qui détruit Big Brother et qui libère l'humanité donc du joug de la tyrannie. Et justement, c'est ce qui est passionnant, c'est de voir qu'aujourd'hui, c'est justement ces entreprises comme Apple et Google, et etc., qu'on assimile à Big Brother. Et ce sont ces entreprises qui étaient initialement les outsiders révolutionnaires, héritiers de la contre-culture, qui ont fini par prendre le pouvoir et même devenir plus puissantes que les États, avoir plus de budget pour entreprendre, pour développer des projets très ambitieux. Et donc, je trouve que cette évolution historique et ce retournement complet est vraiment passionnant à analyser.
Dans sa vision du web et d'Internet, Fleur Vasseur, quel était le principal, peut-être, motif d'inquiétude, on va dire, pour Aaron Swartz, dont il faut peut-être, alors, c'est le moment d'en dire un mot, c'est-à-dire qui était-il? Quel était son idéal et de quelle manière il a été confronté, enfin de quelle manière son idéal s'est heurté, on va dire, peut-être à la réalité de ce qu'était devenu Internet.
Oui, merci. Alors Aaron, c'est quelqu'un qui est né avec le web et qui est, j'ai envie de dire, mort avec. Il est né en 86, trois ans avant le web. Et il est né avec une surintelligence, des fulgurances, etc. À 3 ans, il apprenait tout seul à lire. À 5 ans, il découvrait un ordinateur. Et à 8 ans, il se mettait à coder. C'est quelque chose que son père a commencé à lui apprendre. Et très, très vite, il s'est émancipé de son papa. Et très, très vite, parce qu'il venait d'une grande famille d'humanistes et d'activistes, il s'est rendu compte que le web pouvait être quelque chose d'utile à la société. Il s'est battu beaucoup, beaucoup, beaucoup en créant des technologies. Alors j'espère, Madame Lalou, que vos étudiants vont, c'est pas grave s'ils connaissent pas Tim Berners-Lee, mais s'il vous plaît, mettez leur Aaron Swartz entre les mains. C'est vraiment un destin incroyable.
Mais ils le connaissent.
Ah, très bien. Bravo. Et donc très vite, il a créé des technologies qu'on utilise tous les jours et qui visent à partager le savoir et la connaissance. Si vous écoutez un podcast, le podcast n'aurait pas été possible sans un certain nombre de briques qu'a inventé Aaron Swartz. Et très vite, il a été ce prodige de l'Internet, parce qu'à 14 ans, il travaillait déjà avec Tim Berners-Lee au MIT, et très vite il a été ce prodige de l'Internet qui quelque part parachevait le rêve des pionniers de cette histoire magique, non pas de la prochaine start-up qui va faire un milliard de dollars, mais d'un petit bonhomme qui sortait de nulle part et qui arrivait avec des idées politiques absolument géniales.
Et pourquoi dites-vous qu'il est mort avec le web ?
Mais parce que il a assisté à 14 ans à quelque chose dont on n'a pas parlé ici et j'ai pas eu le temps. Moi, mon point de l'analyse du retournement du web, pour moi, c'est le 11 septembre, en fait. Le 11 septembre, la bulle Internet a explosé. Il n'y a plus d'argent. Les startups ont, 90% des startups ont disparu. Et les Wall Street se détournent complètement de l'univers des startups. Et il y a un autre acteur qui arrive, et qui va rafler la mise, qui est InQtel, qui est le fonds d'investissement du Pentagone. Et là, InQtel commence à distribuer des chèques en disant, pour toute application que vous avez développée à partir de maintenant, il y aura une application grand public et une application militaire. C'est comme ça qu'on a rentabilisé le web, parce qu'en 2001, tous les investisseurs ont dit il y aura jamais de marché sur il y aura jamais d'internet marchand. Donc c'est ça qui a sauvé le web, l'arrivée des militaires, qui est d'autant plus confortable et d'autant plus justifié qu'il y a le terrorisme et que tout à coup la NSA détourne les outils de surveillance qu'elle avait projetés sur le monde et sur ses ennemis pour le retourner contre sa population. Et ça, c'est tout à fait accepté politiquement, mais c'est pas validé démocratiquement. Et c'est là que tout ça se retourne. Et Aaron le voit avant tout le monde.
Brièvement, Aaron Swartz, donc c'est ce que vous racontez dans votre livre, je rappelle le titre, ce qu'il reste de nos rêves aux éditions des Équateurs. Anne Lalou, les élèves qui viennent à la Web School Factory, ils viennent pour faire quoi? C'est-à-dire, c'est quoi leur projet, c'est quoi leur utopie, si tant est que le terme d'utopie soit quelque chose qui leur parle.
Ah, mais ça leur parle. Et en fait, ils viennent en réalité avec une vraie ambition pour changer le monde. Et La réalité, c'est que quand...
Mais ils veulent le changer comment? Enfin, on peut peut-être pas faire de généralité, mais
on
enfin,
peut
en tout
pas
cas...
faire de généralité parce que c'est extrêmement varié. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand ils arrivent, ils ont tous, en tout cas, dans la grande majorité, un idéal d'entrepreneur. Et avec des grandes figures de l'entrepreneuriat, comme effectivement Steve Jobs et aujourd'hui Elon Musk, ce qui est plus discutable.
Pardonnez-moi juste, c'est quoi un idéal d'entrepreneur? C'est-à-dire, c'est de gagner beaucoup d'argent ou c'est de trouver le
non, c'est
l'application
de trouver,
par
c'est de
exemple
quelque qui va changer les choses. Je crois que, alors en réalité, cette génération, alors là, je suis très très claire là-dessus. Pour elle, l'argent n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que vraiment, la valeur de l'argent en tant que valeur n'en est pas une. La recherche de sens est fondamentale pour cette génération et ils ont vraiment à cœur de réconcilier justement des impératifs économiques avec des impératifs d'idéaux qu'ils ont et qu'ils ont pour le monde dans lequel ils vivent. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement frappant. Et donc oui, ils veulent gagner de l'argent, mais ils veulent gagner de l'argent parce que ça leur donne pour eux la liberté et les moyens de faire d'autres choses. Et de faire d'autres choses qui peuvent être vraiment des réflexions qui peuvent être de dire comment justement est-ce qu'on va permettre de stocker de la connaissance pour les générations futures, comment les projets qui émergent, notamment par exemple sur les mémoires de fin d'études, sont particulièrement intéressants de ce point de vue-là. Donc vraiment, alors après, ils sont aussi de leur génération, c'est-à-dire qu'ils ont cette volonté et cette recherche de sens, et en même temps, ils ont quand même été biberonnés à ces grandes réussites, entre guillemets, de l'Internet. Et ils essayent de réconcilier ça. Et encore une fois, nous, notre accompagnement de tout ça, elle passe par cette capacité à intégrer la pensée et l'éthique dans un projet, même si c'est un projet d'entreprise. Alors, Flore, juste vous rassure, nous ne formons pas de codeurs, de toute façon. Hein. C'est une école de management du numérique, donc nous formons des gens qui, justement, vont a priori être des acteurs, des entreprises ou des organisations au sens large autour de ces questions du digital et de la transformation, ils ne vont pas être des codeurs ou des développeurs, c'est pas l'objet.
Rémi Durand.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec Anne Lalou sur ce rapport à l'argent particulier de cette génération et du fait que l'argent n'est pas le centre de tous les projets entrepreneuriaux, même les plus ambitieux, et je dirais même surtout les plus ambitieux. Et je trouve justement que c'est intéressant de comprendre comment s'articule l'argent avec les dynamiques entrepreneuriales de cet univers-là. Et ça, ça se sentait même la génération des années 60-70 qui a initié les grandes multinationales de la Silicon Valley. En fait, Steve Jobs, il disait quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre, mais qui est essentiel à comprendre, je pense. Il disait que ce qu'il a fait à travers son entreprise, il le faisait pas pour l'argent. Alors, ça peut paraître paradoxal quand on prend un peu de recul et qu'on se dit, attends, c'est des gens qui gagnent des milliards de dollars, c'est les plus grosses capitalisations boursières de toute l'histoire du capitalisme. Et en fait, justement, comme le disait Anne Lalou, l'argent, c'est toujours vu comme un moyen qui est mis au service d'une vision. C'est des gens pour qui l'innovation, c'est quelque chose de quasiment transcendant. Et c'est ces visions-là et les affects très exaltés qui rattachent à ça, qui fixent leur cap. Et c'est ça qui leur donne leur dynamisme et leur cohésion, je dirais, parce que c'est des équipes, c'est des entreprises et des écosystèmes qui les entourent. Et c'est vraiment ça qui est au cœur.
Est-ce qu'il y a là de quoi vous rassurer un peu, Flore Vasseur?
Je suis désolée, mais je voudrais vraiment intervenir là-dessus. Juste une anecdote, quelque chose d'important, parce qu'il faut arrêter d'encenser la culture de la Silicon Valley comme des gens qui ont juste envie de faire la société, de faire des innovations de rupture. Des innovations de rupture, pourquoi? Je veux juste donner un exemple. Et c'est pas, j'entends la critique insidieuse que l'on pourrait me faire d'un point de vue un peu trop gauchiste ou quoi que ce soit. C'est le Figaro qui a titré là-dessus. L'année dernière, à l'intérieur de Google, il y a eu une mutinerie. Le mot mutinerie vient d'un article du Figaro. Pourquoi? Parce que Google était en train de faire travailler une partie de ses équipes sur un projet du Pentagone qui était vendu 7 milliards de dollars. Il y a eu une mutinerie à l'intérieur de Google pour dire que jamais, en leur nom, les codeurs accepteraient de faire ça. Donc, et comment Google a réussi à faire pendant plein de temps travailler des personnes sur ces idées-là, c'est très très simple. Je vous conseille de voir The Circle de Dave Eggers. qui est le cercle qui existe aussi en film. En fait, ils font travailler leurs codeurs sur des projets effectivement très très ambitieux, gérés par des managers, mais le codeur en lui-même est en face d'une difficulté technique qu'il est effectivement, il est ravi de dépasser puisque c'est ce qu'il aime faire. Mais il n'a pas la vision d'ensemble du projet sur lequel il est en train de travailler. C'est absolument faux de considérer que tout le monde est d'accord de travailler au bien-être de l'humanité.
Bon, en tout cas, on aura compris à travers la discussion de ce soir. Pardonnez-moi, Florent Vasseur, mais comme on est au terme de l'émission, on aurait pu poursuivre encore un petit moment parce que Anne Lalou et Rémi Durand, je pense, auraient bien aimé réagir. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver. La discussion sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. C'est notre site internet, notre site web. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richer, Léa Capuano, Antoine Dulster et Cyril Marchand, émission réalisée par Peyre et Legras. Avec à la prise de son Anthony Thomasson, les liens divers et variés, hein, là aussi je ne l'ai pas dit, mais c'est toujours sur notre site. Arnaud Laporte, c'est la moi. Dispute, le
oui,
théâtre.
En effet, ce sera ça dans 3 minutes. Et demain, la question du Grain à Moudre.
La crise climatique redonne-t-elle du poids aux États?
Bon, sauf si vous changez de sujet, ça va dépendre des titres de l'actualité qui vont nous être donnés par Aurélie Kiefer.